La une ce midi, c'est l'avis défavorable du CESEC au nouveau schéma d'organisation sanitaire. Les conseillers doivent en débattre demain. Cette alliance aussi pour les municipales entre Teva Sylvain et Taoui Tinena. Et du sport pour terminer avec ce gros trail ce week-end. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Le CESEC votera demain son avis sur le futur schéma d'organisation sanitaire.
Oui, il s'agit du document programmatique de l'offre de soins et de prévention du pays sur la période 2026-2031. Le précédent SOS avait expiré en 2021, mais il avait été prolongé deux fois. Et dans ce nouveau document, le gouvernement ambitionne une révision profonde, un changement de paradigme qui tienne compte des nouveaux enjeux, Caroline Perdry.
Oui, Lucie, pas si nouveau que ça, les enjeux, puisqu'on parle de la pénurie de soignants, des tensions sur les structures hospitalières, du vieillissement de la population, de l'augmentation constante des dépenses de santé et du fléau de l'AIDS. Les pathologies prioritaires retenues sont, sans surprise, le cancer, la santé mentale et la greffe.
Et le CESEC regrette qu'on lui ait présenté une version light du schéma, mais note que les 5 axes stratégiques ne sont pas si différents que ça par rapport au précédent schéma. Promotion de la santé à l'école, dans la commune, sur le lieu de travail et dans la famille, renforcement des soins primaires de proximité, garantie de la permanence des soins dans les îles éloignées, structuration des soins hospitaliers et des soins spécialisés et organisation de parcours santé pour garantir un accompagnement continu. Mais ces axes stratégiques sont aussi trop larges et non priorisés, dit le CESEC, et le SOS 2026-2031 présente de nombreuses lacunes, Caroline.
Les rapporteurs du CESEC pointent l'absence de bilan du précédent schéma, l'absence de calendrier, l'absence de priorité, l'absence de budget, l'absence d'indicateurs de suivi et l'absence de mesures visant à améliorer l'utilisation des deniers publics, la maîtrise des dépenses de santé et l'efficience des dispositifs. Et enfin, l'absence d'une autorité pour coordonner sa mise en œuvre.
Voilà, beaucoup d'absences. Donc, un texte qui est aujourd'hui considéré comme un catalogue de bonnes intentions. Les rapporteurs demandent donc à leurs collègues de voter un avis défavorable. Ce sera demain matin.
Politique maintenant, avec ce candidat au municipal à Papeete qui finalement fait alliance.
Et oui, Teva Sylvain avait présenté sa liste baptisée Papeete Aya Papou pour tenter de prendre la mairie de la capitale, mais finalement il renonce à partir seul et fait alliance avec Taohiti Nena. Il avait mené des discussions avec plusieurs candidats et c'est avec l'ancien ministre, aujourd'hui enseignant et patron d'une fédération de boxe, que ça a marché.
C'est pas que j'ai choisi, c'est lui qui a tout de suite dit « Teva, si tu veux te rejoindre à nous, moi je suis preneur parce que des gens comme toi... on n'en trouve pas et tu nous apporteras certainement beaucoup de ton expérience, de ton analyse. Donc tu es le bienvenu et tu seras parmi les 5 premiers de la liste. »
L'ancien candidat a donc présenté cette possibilité à ses partenaires qui étaient d'accord avec lui. Et ce constat, c'est toujours mieux de partir unis. Quant aux objectifs de l'un et de l'autre, Teva Sylvain assure qu'ils ont quasiment les mêmes points sur leur profession de foi.
Dans la mesure où Taoui Nena est d'accord sur les différents points qu'on a soulevés dans notre profession de foi, en fait, il a quasiment les mêmes. On est d'accord sur tous les points. Dans ma profession de foi, je parle des problèmes de la circulation, du coût de la vie et des délégations de services publics avec l'électricité. Ce sont des points pour moi qui sont vraiment indispensables à mettre en œuvre pour... permettre à la ville de Papeete de retrouver un peu sa splendeur.
Et que se passera-t-il pour les grands projets de son programme à lui, à Teva Sylvain? Il avait notamment parlé du déménagement des cuves d'hydrocarbures de Faréouté, de la construction d'une 8 voies surélevée ou le déplacement au niveau de Toata du quai d'embarquement pour Moorea. Et avec Taohiti Nena, ils ont la même façon de voir les choses, assure-t-il.
Tous ces points, nous n'avons pas une capacité d'agir. Mais on peut dénoncer, demander et insister pour que les choses soient mises en ordre. C'est ça qu'on peut faire. On est d'accord sur beaucoup de sujets, oui, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'engage avec lui et je le soutiens, parce que je préfère, si tu veux, réunir des équipes dans une même logique.
Et face à eux, les candidatures déjà annoncées de René Temeharo, de Rémi Briand côté autonomiste, de Tematei Le Gaillic côté Tavigny, ainsi qu'à celle potentielle de Pascal Haïti-Floss et pour Ahereya Polinetia de Boniface Tehei.
L'actualité ce midi, c'est aussi ce micmac entre ministères qui laisse les SDF sans soins psychiatriques.
Le docteur Michel Stenmeis, qui suivait depuis plus d'un an les sans-abri de Papeete, ne peut pas continuer sa mission. Sa convention n'a pas été renouvelée, en cause un problème de subvention. Les sans-abri relèvent des solidarité, les soins du ministère de la Santé. Un accord avait donc été conclu entre les deux avec une convention de financement d'environ 8 millions de francs en tout. Mais aujourd'hui, on s'interroge sur la légalité de ce dispositif. Pour le père Christophe, c'est une guéguerre de pouvoir entre la solidarité et la santé. Et en attendant la résolution du problème de convention, les SDF qui bénéficiaient d'un suivi et d'un traitement pour leurs troubles psychiatriques n'ont plus rien, alors que certains recevaient normalement des traitements lourds comme des injections hebdomadaires. C'était le cas par exemple de l'homme qui a tué un retraité début décembre sur le parking de Mille Délices.
Cette info santé maintenant avec l'épidémie de grippe qui est toujours en cours.
Depuis mi-novembre, les autorités ont compté plus de 200 cas de grippe, 96 personnes hospitalisées, 8 sont allées en réanimation et 2 sont décédées. Ce point sur l'épidémie en cours s'accompagne d'un message de prévention. Les personnes les plus faibles sont invitées à se faire vacciner. D'autres virus circulent aussi, notamment des infections respiratoires où les malades sont de plus en plus nombreux, notamment à Tahiti, Moorea et aux Australes.
On quitte Tahiti et on part aux Marquises où l'association Manou innove avec ce programme de sauvegarde d'un oiseau.
Oui, c'est en effet une première pour la Sop Manou. Un monarque de Fatou Hiva est né et a grandi en captivité. Cette espèce qui vit dans une seule vallée de Fatou Hiva est en danger critique d'extinction. L'association a compté 16 individus et seulement 2 couples reproducteurs. L'oiseau est tué petit à petit par les rats, les chats sauvages et la malaria aviaire, une maladie transmise par les moustiques. Un programme de la dernière chance a donc été lancé en 2022 et en cette fin d'année, après plusieurs échecs, l'association a réussi à faire naître un oiseau en couveuse. Un programme précis et très délicat. On écoute la responsable, la biologiste italienne Chiara Ciardello.
L'œuf, il doit être à une température constante de 37,5 degrés et une humidité qui est normalement autour de 50%. Et à Fatou Hiva, il y a une humidité de plus ou moins tous les temps de 90%. Les couveuses, même s'ils sont fermées, il y a toujours des échanges avec l'extérieur. C'est vraiment un suivi, c'est un monitoring qui se fait tous les heures, 24 heures sur 24.
Et très délicat encore quand l'œuf a éclos des premières heures intenses où le bébé n'est jamais laissé seul une minute. Nourrissage micro-précis, suivi continu de gestes millimétrés. Et pour la première fois, ça a fonctionné.
C'est un protocole qui c'est sûr qu'on doit encore développer, qu'on doit encore échanger. On fonctionne aussi des autres oisillons qu'on va recevoir, qu'on va faire naître en captivité parce que chaque oisillon, c'est différent. Du coup, on peut dire qu'on a un protocole général, mais après, pour chaque oisillon, on doit s'adapter.
Et après 18 jours de soins continus, le juvénile a quitté son nid pour s'installer sur une branche. Un moment inoubliable pour toute l'équipe. L'objectif est d'avoir 15 oiseaux en captivité, donc le monarque de Fatou Hiva, et espérer voir des couples se former pour donner naissance à des petits. C'est cette deuxième génération qui sera ensuite relâchée dans la nature pour essayer de faire grandir la population des monarques de Fatou Hiva et donc sauver l'espèce.
On termine avec du sport et cette première édition du Tahiti Moorea Ultra Trail qui s'est déroulée ce week-end.
Départ du 80 km donné à minuit vendredi. La chaleur, les cailloux, les racines, un parcours exigeant et des trailers qui ont souffert. Plus de la moitié sur le 80 km ont abandonné. C'est le Normand Johan Lecauchois qui s'est imposé sur cette épreuve, suivi par Delby Villa Gongora. Le local de l'épreuve est resté en tête durant une grande partie de la nuit jusqu'au 62e km lorsque les deux hommes sont sortis de la trace. Et c'est à ce moment-là que Johan Lecauchois a fait la différence.
J'ai eu de la chance, il s'est perdu, le pauvre. Il a pris 10 minutes là, à un moment. Moi, je me suis perdu juste avant lui. Mais j'ai pas perdu autant, quoi. Lui, il a perdu 10-12 minutes. Donc, c'est la course, hein. Mais bon, je suis triste pour lui. C'est dommage qu'il est vraiment costaud. C'est son pays et il est balèze. Franchement, techniquement, rien à dire.
Et Johan Lecauchois, le gagnant, donc, reconnaît qu'effectivement, les terrains à Moorea sont plutôt difficiles.
Donc voilà, il y avait du costaud et ça m'a mis un peu la pression. Et techniquement, c'est chaud, ouais, c'est compliqué. Hein. Il n'y a que des cailloux, de la mousse, de la boue, des racines. Là, niveau technicité, c'est vraiment comme la Transmartinique, quoi. La Réunion est un peu plus facile, entre guillemets. Hein. Mais bon, par contre, c'est beaucoup plus long, donc rien à voir.
Et le coureur fait référence, évidemment, à la Diagonale des Fous, organisée à La Réunion, un trail réputé pour sa difficulté. Chez les femmes, c'est Marlène Maisonneuve qui s'impose et elle aussi se souviendra du parcours.
C'était super dur, franchement, je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. C'était vraiment hyper technique, même dangereux. Il y avait des racines de partout, c'était gras, ça glissait. Il a fait super chaud, ouais. Surtout la portion sur la route, là, en plein cagnard, là, c'était l'enfer. Là, moi d'ailleurs, j'ai marché, je me suis dit que j'allais finir en marchant, parce que si je courais là, j'allais craquer, c'était sûr. Ouais.
Cette première édition était l'occasion de découvrir les parcours de ce qui doit devenir la finale de la nouvelle Ligue Ultra. Elle doit être officiellement lancée l'année prochaine. Cette compétition rassemblera 4 courses de très longue distance dans les Alpes françaises, allant jusqu'à 170 km et 12 000 mètres de dénivelé, avec donc un grand final à Moréa. Il y avait aussi d'autres distances au programme ce week-end. Un 50 km sur lequel on compte aussi beaucoup d'abandons, près de 40% des coureurs qui ne sont pas allés au bout. Un 20 km, un 13 km et un 5 km. Tous les résultats sont à retrouver sur notre site radio1.pf. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les infos. Maintenant, voici la météo sur Radio.